des gens abusés, manipulés, arnaqués. Vous avez toutes les preuves devant les yeux. Et maintenant, quelqu'un doit payer. La chaîne télé, Témoin, pour des scandales en série. Débrouillé dès le mardi 9 avril.
Benoît Dutrisac.
À un moment donné, qui gère le système?
Mario Dumont.
Le point, c'est que si les tribunaux peuvent prendre des décisions...
La rencontre.
Dans les deux cas, c'est d'une absurdité qui défie l'intelligence.
Excuse-moi, je t'arrête là.
Non, pas toi, là.
Ça ne les regarde pas.
Mais je comprends sa crainte.
C'est pour les imbéciles.
La rencontre Dutrisac Dumont.
Mario, Benoît, bonjour à vous deux.
Hello. Bonjour.
Avant de parler du cabinet de Justin Trudeau, je voulais juste faire réagir sur une nouvelle de Radio-Canada ce matin. On apprend notamment que le CU3S de l'Est de l'île de Montréal a versé 900 000 $ à des travailleurs non vaccinés entre avril et octobre pour qu'ils aillent se faire tester. Donc, on a payé près d'un million de dollars pour 2080 employés non vaccinés pour qu'ils aillent se faire tester. Je me suis dit que... Ça vous ferait plaisir.
Moi, j'en ai fait une obsession. Là. Je suis peut-être un des seuls. J'ai posé cette question-là tout le temps. Dès qu'on a dit les gens vont se faire tester, est-ce que c'est un double scandale? Hein? On était mal pris. Parce que si on le faisait sur leurs heures de travail, ben là, tu dis que tu manques de personnel, puis t'en as qui perdent une demi-heure, trois fois par semaine, ils perdent une demi-heure de travail qui ne donnent pas de service aux patients. Puis là, si tu le faisais en dehors de leurs heures de travail, mais là, pour des raisons syndicales et autres, tu disais, ben là, faut que tu peux pas les forcer à faire quelque chose sans les payer. Mais là, au moins, avec depuis le... S'il y a une chose depuis le 15 octobre, avec la nouvelle règle, c'est plus le cas. Hein, depuis que les non-vaccinés, depuis le 15 octobre, on dit que le gouvernement a reculé sur l'obligation de se faire vacciner dans la santé. Mais la date butoir aura au moins permis de régler ça. Là, dorénavant, c'est trois fois par semaine et il faut qu'ils se présentent. Là, il y a plus de, c'est plus sur le temps de travail ou payé en temps supplémentaire. Tu veux travailler, il faut que tu te présentes, puis tes tests sont passés à tes frais sur ton temps à toi. Ça, au moins, c'est une chose de régler. Mais on savait qu'il y en avait eu de payer, là. C'est juste le on a additionné, on a fait de l'addition.
Benoît.
Je ne sais plus. Le dollar des contribuables à l'œuvre, de toute évidence. Puis, il y a des fonctionnaires, mais là, ça relève pas des fonctionnaires du CIUS, ça relève de la santé publique. C'est eux autres qui prennent les décisions. Où est-ce qu'on va mettre notre argent? Puis là, c'est encore une fois, on cède à ceux qui veulent pas être vaccinés et on paye par-dessus le marché. Je sais pas.
Ouais, on cède aussi aux syndicats qui les représentent, là, qui nous disent officiellement on est pro-vaccination, mais qui ont défendu tout le long du processus des privilèges pour les non-vaccinés.
Ouais, et le Parti québécois là-dedans, là, qui a appuyé les syndicats. Puis c'est aussi le fait que là, on voulait en parler, là, mais là c'était le 15 octobre.
C'est le 15 novembre.
Ça va être le 15 novembre 2022. 2023, on va parler d'années au lieu de mois, tu sais. On va arrêter de niaiser. Mais c'est ça. Il y a des fois, tu négocies avec des gens, tu sais, où c'est pas négociable. Tu peux pas t'entendre avec ces gens-là. Puis en plus, là, on en a besoin. Puis on cède, puis on paye. Parce qu'ils comprennent rien ni du cul ni de la tête en ce qui a trait au vaccin. Fait que
c'est, mais cette vaccination obligatoire du 15 novembre, qui semble de plus en plus être à géométrie variable. De dire, finalement, ça va l'être, mais juste dans certains établissements où il manque pas de monde.
J'ai hâte de voir ça, moi.
Si tu veux.
Une politique de vaccination dans une région, pas dans l'autre, dans un corps de métier, pas dans l'autre.
Envoie donc. Fais-moi
plaisir. J'ai hâte de voir le cartable, moi, qui va nous détailler.
Je vais te donner une semaine de vacances de plus. Je vais t'apporter ton café le matin. Tu prends-tu deux laits, un sucre?
Mais pour moi, le 15 octobre, c'était clair. Tu avais une date, tout le personnel de la santé devait être vacciné à une certaine date. C'est ce qu'ils ont fait en France, c'est ce qu'ils ont fait ailleurs. Mais ce que le premier ministre t'a dit hier, là, je comprends rien à ça. Que, dépendamment des régions, puis bon, à la limite du type de travail, ça, tu pourrais séparer le travail de bureau du travail de proximité
de
avec
cuisine,
les patients.
Par exemple.
Ouais, mais ça, on s'était quand même rendu compte que c'était compliqué. Là. On avait voulu le faire initialement, puis on s'est rendu compte que c'est compliqué, mais bon, ça pourrait toujours être fait.
OK, mais et si le premier ministre, et si le gouvernement est arrivé et dit « ça suffit, vaccination obligatoire, tu perds ta job ». Est-ce que là, il y a déjà des bons services?
Ben, c'est ça qu'il a fait.
L'appliquer, ah, là, oui. Pas en parler, pas juste sortir la marionnette. Là. L'appliquer. Tu perds ta job. Tu perds tout ce que tu as accumulé comme fonds de pension. Tu perds ta job. Dehors.
Ben, il était suspendu. Là. Pas les...
Mais Mais s'il avait gardé sa parole, vous pensez pas que 2-3 jours plus tard, les gens auraient dit, sais-tu quoi, on va y aller. Eux, aujourd'hui, on voit dans le journal les gens qui ont quitté pour le privé. Puis là, tu l'appliques au privé aussi, pas juste au public. Si t'es pas vacciné, tu perds ta job. Tu veux travailler pour l'État, directement ou indirectement, tu travailleras pas pour l'État. Tu négocies plus. Tu mets le pied à terre, pis c'est le même, ça marche, pis c'est fini.
Mais tu fais quoi avec les bris de service? Tu fais quoi avec les hôpitaux?
Il y en a déjà.
Ouais, mais il va en avoir 1000 fois, 10 fois plus.
As-tu vu hier le rapport, là? J'ai parlé à la présidente là, des urgentologues. T'sais, ils savent pas par quel bout prendre le problème des urgences. C'est toujours la faute d'un, la faute de l'autre. Il y a personne de responsable. Il manque de personnel. Il en manque 50% d'infirmières. Ben, on est déjà en bris de service. Alors, pourquoi on a négocié? Est-ce que ça va tellement mieux parce qu'on les a gardés? Le porte-parole de l'Association médicale canadienne disait, moi, je préfère avoir moins d'employés, mais qui sont vaccinés, que prendre le risque d'en avoir, puis là, commencer. Puis en plus, là, t'es test, puis en plus, là, on paye pour les tester. Tout ça parce qu'on négocie, parce qu'on fait des compromis avec des gens qui, eux, des intégristes de la santé, qui veulent pas faire de compromis.
Mais qui ont le gros bout du bâton dans une période de manque de main-d'œuvre dans la santé.
Mais on manque de main-d'œuvre de toute façon. Ça. Mais on en manque de
toute façon. Oui, mais là, t'en manques de toute façon, mais si t'en manques 3 000 de plus, là, c'est pire.
OK, mais ma question est niaiseuse. Mais je suis désolé, mais comment ils gagnent leur vie, là? Si des gens qui travaillent dans le milieu de la santé, là, sont pas indépendants de fortune, là. Fait que comment ils gagnent leur vie s'ils décident de pas se faire vacciner puis d'arrêter de travailler? Qu'est-ce qu'il y a? Eux autres vont aller à l'épicerie, ils vont dire, moi, je suis une anti-vaccin, donc ma commande est gratuite.
Ben, on a tout vu. Il y en a qui étaient prêts à aller travailler, carrément faire d'autres choses. Il y en a qui voulaient devenir agent immobilier. Il y en a aussi qui se sont ramassés à faire du temps supplémentaire obligatoire, parce que ça, ils oublient de le dire, mais dans le temps supplémentaire obligatoire, ils sont payés en temps supplémentaire. Là. Il y en a qui se sont ramassés dans les derniers mois un petit pactole pour passer la période de... Il y en a même, semble-t-il, que quand le ministre Dubé a annoncé qu'il annulait sa date du 15 octobre, il y en a qui étaient déçus parce qu'il y en a justement ils s'étaient ramassé un petit montant d'argent. Puis ils avaient prévu de dire tabarouette, on va être libre novembre, décembre, des beaux mois de congé. Et que ils étaient pas contents pantoute là, d'être appelés à l'hôpital. Donc il y a de tout, hein.
On ne saura jamais, là, parce qu'on plie à chaque fois, puis on négocie à chaque fois, puis on paye à chaque fois. Mm. Fait qu'on ne saura jamais.
Bon, un sujet qui va peut-être te remonter le moral, Benoît. Jean-François, une chanson pour toi.
J'ai des larmes. Écoutez, je pense que Justin Trudeau m'écoute. Parce que là, Marc Garneau puis M. Sajjan, qui sont à qui on va montrer la porte, M. Sajjan qui pourra pas rester à la Défense nationale. Là, on parle de nommer une femme à la Défense nationale. Ça serait à moindre des choses. Encore faut-il que ça parte d'en haut puis ça sente en bas pour ce qui a trait aux agressions puis au harcèlement sexuel. Mais... Monsieur Garneau s'en va, il a 72 ans.
Mais il s'en va, là, Marc Garneau, là, selon plusieurs médias. Il ne resterait même pas au cabinet.
Mm-hmm. Non, il s'en irait ambassadeur à Paris ou quelque chose du genre.
C'est
récompense.
Parfait. Moi je pense
parfait.
Que...
Voyons, Benoît, c'est parfait. Tu niaises, c'est une joke.
Oui, non, c'est parfait.
Il vient de se représenter, il fait une élection... Ben non, mais si c'était le cas, il fallait que Monsieur Trudeau il dise au mois de juillet... Regarde, Marc, là, t'as 72 ans. Pas, ben oui, t'as rendu de précieux services, puis là, ben, on va te nommer quelque part, mais pas de problème avec ça.
Mm-hmm.
Mais là, on dit, représente-toi dans un comté plus que sûr. Il n'y a pas de danger qu'il ne soit pas réélu dans Westmount. Puis là, ben, après l'élection, tu disais, finalement, sais-tu quoi? Tu t'es représenté, mais on ne te voulait plus.
Il pourrait même pas siéger à cette nouvelle législature-là.
Ben, c'est probablement ce qui va arriver. Il ne mettra pas les fesses dans le pays. Il va avoir été réélu. Il va créer une élection partielle sans avoir déposé ses fesses dans le Parlement. C'est incroyable, non?
Mais est-ce que pensez-vous que ça émeut Justin Trudeau? Il vient de mettre 612 millions pour rien. Est-ce que lui, une élection partielle, ça va le déranger?
Une élection partielle qui va gagner de toute façon.
Ben oui,
c'est ça. Mais 612, rajoute-en un demi-million sur ton 612 là, pour une élection partielle complètement ridicule.
Mais ça, c'est la carte. Les intérêts sont bons encore.
Mais sinon, qu'est-ce que vous pensez de ce qu'on voit ce matin? Là, Stephen Guilbeault à l'environnement, François-Philippe Champagne qui retournerait aux affaires mondiales, aux affaires étrangères, Anita Anand qui s'occupait de l'achat des vaccins, s'en irait à la défense.
Est-ce que je peux vous avouer une chose? Moi, je savais pas que c'était Jonathan Wilkinson qui était ministre de l'Environnement. Je ne sais pas c'est qui ce gars-là. J'ai jamais vu la face. Je l'ai vu hier, là, parce qu'il a réagi à la COP.
Moi, je l'aurais laissé là.
Ouais.
Ah oui?
Moi, je trouve que Stephen Guilbeault, l'environnement, c'est hautement risqué. Parce que on est un pays, le Canada, producteur de pétrole. On va le demeurer. Puis là, le pétrole, en passant, il est plus à 20$ le baril comme dans le cœur de la crise de la COVID. Là, il est revenu à 85 hier. Là, t'sais. Donc, l'économie pétrolière en Alberta, puis on sait tous, là, ça s'en va vers une fin. 2040, 2050, il n'y en aura presque plus. Mmh. Mais c'est pas demain matin, ça. Là. Il reste 2022, 2023, 2024. Je continuerai pas à vous écœurer jusqu'à 2050. Là, mais il reste des années où des entreprises vont créer de bons emplois avec le pétrole. Puis c'est ça la réalité du Canada. Alors, de mettre Stephen Guilbeault, ministre de l'Environnement, en sachant ça, tu sais, c'est une chose de se faire accuser, mettons, celui qui est là, Wilkinson ou un autre, c'est une chose de se faire accuser d'être un ministre de l'Environnement qui en fait pas assez, qui se traîne les pieds, que les groupes environnementaux te font des petites manifs, puis que tu respectes pas tes cibles. Mais dans le cas de Guilbeault, tu sais que le mot qui va apparaître tout de suite, là, je vous l'annonce, c'est traître. Ça, c'est politiquement, là, c'est pire que tout, là. Parce que tu vas te faire accuser d'être un vire-capot, là, qui était un environnementaliste, mais là, maintenant, mais il va être obligé, là, de composer avec l'industrie du pétrole. Il pourra plus faire comme si le Canada, ça existe pas, là. Écoute, c'est ça qu'il veut, Guilbeault. Je suis bien content pour lui, là. Puis j'y souhaite bonne chance. Mais je suis pas sûr qu'il comprend exactement, politiquement, comment ça peut être cruel, la position où il va se retrouver.
Peut-être que Stephen va trouver une façon de produire du pétrole de façon écologique. Ou non. Ou non. Mais il faut. Puis en même temps, l'environnement, là, on peut plus niaiser, là. Pour les générations à venir, pour nos enfants qui grandissent, à un moment donné, il faut être sérieux avec l'environnement. Stephen Guilbeault a milité toute sa vie. Je pense qu'il y a, des débordements. C'est sûr que l'industrie du pétrole de l'Ouest du Canada, c'est un méchant défi, mais Joe Biden n'en veut pas non plus. Il a fermé tous les projets de pipeline. Fait que là, on fait quoi avec notre pétrole sale, là? T'sais, on va l'avoir combien de temps? Fait que c'est pas là l'occasion d'être en transition puis de prévoir ce qui s'en vient pour le siècle qui continue d'avancer. Là, t'es toujours en train de te retourner vers le pétrole. C'est sûr qu'on en a besoin, mais sincèrement, tout le monde le dit, là, ça va être de moins en moins. Puis le réchauffement de la planète, c'est réel. Tu sais, tous les négationnistes ont beau dire ce qu'ils veulent, c'est réel. Les dégâts sur la planète, c'est réel. Les gaz à effet de serre,
je veux bien, mais Stephen Guilbeault arrêtera pas ça d'un coup de baguette
tout
magique.
Tout seul. Il va grimper dans la tour du CN, puis il va régler ça tout seul.
Puis les 20 milliards de dollars aussi, là, qui sont transférés à l'industrie fossile année après année, depuis des années. Est-ce que le gouvernement va décider de maintenir ces subventions-là ou de les enlever, là?
Ça va être intéressant de voir comment il va jongler avec tout ça. Effectivement, il y a des principes environnementaux, tu sais, qu'il peut pas nier, qu'il peut plus nier. Puis moi, je suis content de voir Stephen Guilbeault aller en l'environnement parce que c'est la raison pour laquelle il était en politique. Il était pas là pour gérer le GAFA, qui est pas géré, qui est pas réglé de toute façon. Il était pas là pour le patrimoine, pour la culture. Il était là pour l'environnement. Fait qu'envoyez-le pour l'environnement, puis voyons ce qu'il va faire. T'sais, c'est pas un imbécile, Stephen Guilbeault.
C'est pas un gars du tout. C'est un gars intelligent et c'est un gars qui a un pragmatisme. Là. Donc, je ne doute pas de ses capacités à faire avancer des choses dans le domaine de l'environnement puis à concilier environnement et économie. C'est juste que ses militants, Équitaire, Greenpeace, etc., pas sûr qu'il leur a expliqué. Moi, j'ai observé dans des entrevues, j'ai observé son sens pragmatique, mais je suis pas sûr que ses militants, il leur a rappelé souvent le pragmatisme. Là.
Mais ses militants votent pas libéraux. Mais ils votent NPD ou ils votent Parti vert. Fait que ils s'en sacquent pas mal. Là. C'est la majorité là, qui vise. Fait que Stephen Guilbeault, on va voir, on va lui donner une chance. Sérieusement, là, c'est un des rares libéraux à qui je suis prêt à donner une chance.
Y a-t-il d'autres choses que vous allez surveiller dans le cabinet?
Le nombre. Moi, à 37 ministres, je suis pas loin de ma limite pour dire que ça tourne au ridicule d'un trop gros cabinet. Là, si on tasse Garneau, ça veut dire quand même qu'on n'est pas dans le jeu là, d'augmenter à l'infini. Mais est-ce qu'on va grossir le cabinet? Est-ce qu'on pourrait toucher le chiffre du 40? Moi, à 40, je trouve que là, on frise le ridicule, là, sincèrement.
Mais j'ai hâte de voir s'il va y avoir des ministères un peu factices, là, genre le ministère de la classe moyenne. On dit qu'on veut
séparer. Il t'a accroché, ça fait une couple de jours.
Ce ministère-là m'énerve mais
surtout,
tellement.
Mais surtout que Marianne Monsef, en entrevue, avait été incapable de
c'était
définir
Mona Fortier.
Mona Fortier. Ah oui, c'est vrai, Mona Fortier, oui. Mais on était mais pas on capable au gouvernement pas. Trudeau
elle
de définir
depuis...
la classe moyenne.
Oui. Mais ministre de ça depuis 2 ans, puis moi je sais toujours pas, mettons, je pourrais pas nommer une action. Et d'abord, tu peux pas faire un projet de loi pour la classe moyenne. Je sais pas en tant que ministre, qu'est-ce qu'elle a, elle peut prétendre d'avoir accompli comme ministre de la classe moyenne. Là,
elle était aux consultations là, sur le budget.
Ben, on continue de travailler, on continue de consulter, on continue...
Ça a été non, non, ça, mais c'est parce que, tu sais, moi, ça me tique parce que je trouve que c'est le symbole de ce gouvernement-là qui se drape justement dans les beaux symboles, dans les belles paroles, mais les que images. Finalement, c'est à quoi ça sert, tu comprends toujours pas à quoi ça sert, puis 2 ans plus tard, tu te poses encore la même question. C'est pas normal, là. Je lui ai posé, quand j'étais journaliste là-bas, je lui ai posé souvent la question, qu'est-ce que vous faites, à quoi vous servez, comment va la classe moyenne, c'est quoi la classe moyenne, puis j'avais le droit à un beau sourire. Rire, là, que c'est important.
S'il abolit ce titre-là, M. Trudeau, aujourd'hui, est-ce qu'on va dire qu'il abandonne la classe moyenne?
En tout cas, Philippe Vincent, ton cynisme est très laid.
Ah, ça pue, ça pue.
Pas joli.
Ah, je vais essayer de me calmer.
Une chance qu'il reste moi d'idéaliste dans notre trio, là.
Une chance que t'es là, mec.
On est mal pris.
Pour nous ramener. C'est pas fin, Benoît. Non, c'est Benoît qui est le plus content ce matin du départ de Marc Garneau. Fait que
Benoît, c'est lui qui mène par en arrière. Moi, j'ai fait longtemps.
Ah, désespoir.
Benoît tire les ficelles par en arrière, c'est sûr.
Ouais, il est temps que vous en aperceviez. Mais non, mais moi, je me réjouis pas du malheur des gens. T'sais, Marc Garneau était le premier Canadien à aller dans l'espace. T'sais, c'est juste un homme qui prenait pas de décision. Puis quand j'ai parlé à la mère de Lac-Mégantic qui me disait que pendant 5 ans, il est resté assis sur ses mains sans offrir de solution, sans la voie de contournement du train, c'est pas réglé. Puis c'est lui qui était là puis qui foutait rien. Là, tu dis, tu sais, il y a tellement de sujets là en transport où Marc Garneau a échappé le ballon. C'est pas personnel, là. Moi, je suis certain que c'est un bon monsieur, mais...
Il est super gentil, là.
Ben oui, non, c'est pas là où je... tu sais, c'est dans la prise de décision. Puis c'est comme Arjit Sajjan, là. Je m'en fous, moi, tu sais, qu'il soit sikh, qu'il soit québécois, qu'il soit... Je m'en contrefiche. Mais quand t'es là, puis t'es ministre, t'as la bouche ouverte, tu sais jamais quoi dire, puis il y a des accusations, non, des allégations d'inconduite sexuelle... Là, tu dis « allume, sacramouille, allume » ou « t'es malhonnête ». Puis si t'es malhonnête,
mais Sajjan
t'as pas
a mis le gouvernement dans l'embarras plus que... Marc Garneau, tu sais, par exemple, dans la relation avec les Américains, on voyait toujours Mme Freeland à l'avant-scène, mais il semble qu'il a joué un rôle. C'est quand même quelqu'un, il est respecté dans le gouvernement libéral, ouais. Il a réglé des affaires, tout ça. Il est pas, effectivement, il est pas décisionnel. Il y a des moments où tu sens qu'il y a de la misère à trancher puis dire « bon, ben là, on agit puis on passe à autre chose ».
On va entendre comment les talibans se comportent avant de décider c'est quoi notre rapport avec Sacramouille. On le sait-tu là, comment ils se comportent? Ils se comportent comme ils se comportaient avant. C'est des talibans, Sacramouille. Ils changeront pas, là. Bref.
Bon. Messieurs.
Mais on se comprend que c'était une drôle d'affaire, parce que François-Philippe Champagne, là, aux affaires étrangères, il avait été... excellent. Là. Puis il y avait toute l'opération rapatriement avec la COVID là, en mars.
Il avait échappé, là. Souvenez-vous, comment les gens sur les bateaux de croisière se sont démerdés
Champagne,
eux-mêmes. Ils appelaient l'ambassade, puis l'ambassade ne retournait pas les appels. Puis c'est les compagnies de croisière qui les ont retournés
au Canada. À la fin, c'est le ministre qui s'en est occupé personnellement, là, puis qui appelait tout partout, puis qui inventait des vols, puis qui obtenait des autorisations pour faire atterrir, puis tout ça. Lui avait été enlevé de là juste parce que pour l'année électorale, on s'est dit c'est un bon politicien, on va l'envoyer
des annonces économiques. Là.
Ben oui, des annonces économiques partout d'un comté. Et là, on le ramène à son poste. Peut-être même que c'est ce qu'on lui avait promis, là. Qui sait?
Qui sait? On pourra en savoir plus aujourd'hui. Spécial à LCN à 9h, Mario. On se retrouve puis on parlera de la classe moyenne à ce moment-là. Salut, à demain.